Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Très heureux d'accueillir notre prochain invité qui a évolué encore la dernière saison avec les Blue Jackets de Columbus, pour qui ça n'a pas été une année évidente, là. Vous vous souvenez du contexte de départ avec Babcock qui finalement n'a jamais commencé la saison. On le retrouve, il est toujours à Columbus. Mathieu Olivier, bonsoir Mathieu.
Yes, salut Mario.
Comment vas-tu?
Hey, ça va bien toi?
Ça va très très bien. Est-ce que tu passes l'été à Columbus dans l'entre-saison ou tu poursuis?
Non, on va revenir. Moi, je suis originaire de Lévis, donc dans environ une semaine et demie, il faut que mon garçon finisse l'école ici à Columbus, mais dans une semaine et demie, on va être de retour au Québec.
Quel âge a votre garçon, là, Mathieu?
Ah, il a 4 ans, mais mon garçon est dans un programme, comment on appelle ça, prématernel, donc... on va le laisser finir, là, puis nous, ça nous donne du temps pour décompresser ici, puis justement, après la saison, puis de revenir à la maison avec un peu moins de stress.
Ben, je pensais que tu me dire, il est dans un sport études, j'ai 4 ans, c'est de bonheur un peu.
Mais non, c'est ça, non. Ma philosophie, c'est de laisser les enfants être des enfants, au moins pour le début, là, donc... Non, pas de sport études, pas d'horaire rempli, là, on va les laisser être des enfants pour commencer.
Quel bilan fais-tu de ta saison, Mathieu? Puis de quoi il était question dans tes meetings, ce qu'on appelle les exit meetings, les meetings de sortie pour préparer la suite?
Ben, il y a eu plusieurs sujets. Écoute, ça a été une longue journée. C'est sûr qu'en tant qu'équipe, on n'est pas satisfait du résultat. On voulait prendre un step cette année. Je pense pas que gagner 6 points au classement puis finir dernier dans l'Est, c'était ce qu'on voulait faire. Par contre, l'organisation, on est toujours en recherche d'un directeur gérant. Je pense que tant et aussi longtemps que cette personne-là ne sera pas engagée, il n'y aura pas de changements, je dirais, qui sont valables, qui vont arriver. On attend cet engagement-là, puis ensuite, ben, on va savoir où est-ce qu'on s'en va, puis vers quelle direction on veut s'en aller en tant qu'équipe. Personnellement, écoute, mes meetings ont super bien été. Je pense qu'ils sont très contents de mon rendement, dans mon rôle. C'est sûr que le début de saison, j'étais comme in and out du line-up, mais je revenais d'une blessure à mon tibia droite qui a nécessité une chirurgie l'été passé. J'ai eu une tige de métal complète là, dans mon tibia pour rétablir une fracture. Donc, ça n'a pas été facile de revenir puis de trouver mon explosion que j'avais. Par contre, je te dirais qu'à partir du mois de décembre, là, environ dans le coin de Noël, comme je te dis, ça a pris du temps, mais un coup qu'on a atteint ce temps-là, je me sentais vraiment mieux sur la glace. Puis c'est à ce point-là que ma saison, pour moi personnellement, a vraiment... continuer du bon pied puis a fini de façon excellente.
Oui, et tu avais de plus en plus de glace, mais je me rappelais pas de cette opération-là qui explique le fait que tu n'as pas joué 82 matchs cette année, Mathieu, dans le fond. Là est l'explication, parce que tu n'as pas été blessé, que je sache, après ça dans l'année, non?
Non, pas dans l'année. En fait, techniquement, j'ai été healthy. J'étais en santé du premier match de la saison. J'étais sur la réserve de blessures au premier match, mais après ça, j'étais en santé. Ça, c'est strictement parce que j'avais demandé à l'équipe de garder ça mort. On savait pas à quel point ça allait peut-être m'affecter. Peut-être j'allais revenir 100% tout de suite en partant, on le savait pas. On allait voir avec le temps, donc le temps a dit que ça allait prendre un petit peu plus de temps que prévu. C'est normal dans des blessures et des chirurgies comme ça. Mais heureusement, je me sens 100% maintenant, puis j'ai aucune restriction par rapport à ça. Donc, écoute, dans le moment, c'était difficile à vivre. C'était difficile de vivre des moments sur le banc, mais Si je suis pas capable de donner mon 100%, ben l'équipe doit prendre des décisions, puis j'étais à l'aise avec ça.
Quand tu dis garder sa mort, Mathieu, c'est-tu parce que tu veux pas donner davantage à quelconque adversaire qui sache que tu peux avoir été blessé quelque part? Ça n'a rien à voir?
Il y a une partie de ça. Il y a une partie que je voulais pas que... je voulais pas que ça soit un focus dans ce que je faisais sur la glace. Je voulais que les gens m'évaluent pour mes performances à ce point-là. Même moi, si je le savais, je pense que la façon que les autres m'évaluaient, c'était un bon indicateur s'il y avait quelque chose qui avait changé ou non. Donc, c'était un petit peu côté motivation. Ça m'a permis de pousser un peu plus pour revenir à 100%. Il y a ce côté-là. Des fois, c'est dur de le voir par nous-mêmes. Hein? Si on a perdu un step ou s'il y a quelque chose qui va pas, des fois, on a l'impression qu'on est correct. Finalement, avec l'évaluation des autres, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, il y avait ça. Il y a une question aussi de... je parle le mot en français, là, de privacy. Il y avait ça aussi.
L'aspect privé, l'intimité, ou je pense.
Exactement. Des fois, excuse-moi, ça fait longtemps qu'on est aux États-Unis, hein, fait que des fois, mon français, il en perd un peu, mais...
Mais non, ça va très bien, inquiète-toi pas. Il y a du monde qui vient ici à l'année, puis il y a de la misère.
Ouais, exact. Ben j'essaie de... Écoute, c'est quelques raisons, là, mais ça fait partie un peu du thinking derrière ça.
Ben, tu sais, tu dis, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, mais pour les gens qui vont regarder ta fiche, t'es né aux États-Unis, puis toutes les fois que je constate ça, tu sais, c'est comme Gord Chenyok aussi, aux États-Unis, puis il y a un paquet, je me dis, ah, j'ai dit, Mathieu, y a-t-il un père qui joue au hockey que je connais pas?
Oui, mais mon père Simon a joué 8 ans ou 9 ans professionnel, 2 ans en Allemagne, puis 6 ou 7 ans aux États-Unis. Avant ça, il a fait son junior dans l'Ouest canadien aussi, donc c'est la raison pourquoi je suis né aux États-Unis. Il a jamais joué dans la Ligue nationale, mais il a quand même réussi à se faire une belle carrière professionnelle avec la chance qu'il a eue.
Absolument, je dis tout le temps aux jeunes, il n'y a pas juste la Ligue nationale. Là, quand tu as un talent au hockey, c'est un passeport pour le monde. Maintenant, il y a de plus en plus de destinations, d'endroits très, très intéressants où évoluer. C'est pas encore comparable au soccer, mais quand même, là, ça a vraiment progressé. J'aimerais ça te parler, puis bon, c'est pas évident pour un joueur, mais Pascal Vincent a été un peu jeté dans la fosse au Lyon. Après qu'on n'ait pas voulu donner le club, on y a donné. Ben, pas qu'on n'a pas voulu, mais on voulait donner à Babcock, qu'on y donne le club. C'était tout un challenge puis un défi. Comment tu trouves, en autant que tu te sentes à l'aise d'en parler, comment tu trouves que c'est débrouillé à travers tout ça?
Ah, tu l'as mentionné, écoute, t'as pas une situation facile pour personne, mais Pascal, c'est un gars qu'on connaissait. Je pense que c'est bien de dire, c'est sûr que les résultats sur la glace n'ont pas été là, mais je pense pas que c'est de la faute nécessairement à Pascal. Pascal est rentré, il a mis ça au clair qu'on allait voir, on allait avoir une culture de d'être comment je dirais bien ça. Si on n'est pas à la hauteur des standards qui sont demandés, ben il va y avoir des conséquences. Puis au début, ça a été un ajustement pour plusieurs joueurs dans l'organisation. Mais Pascal a mis ça au clair, puis je pense que c'était l'étape numéro un à faire avec notre équipe au point où on était. Je pense que la deuxième moitié de saison, on commençait à avoir beaucoup de momentum à un certain point, mais on a eu beaucoup de blessures en peu de temps, ce qui a comme un peu arrêté notre momentum, mais on voyait qu'en deuxième moitié de saison, ce que Pascal voulait amener à notre équipe, ça commençait à rentrer en ligne de compte. Donc, les gars adorent Pascal. C'est un bon coach. Puis, on a hâte de continuer l'année 2 avec lui.
Ben, j'espère qu'il va avoir cette occasion-là, malgré le fait qu'il y a un nouveau patron hockey qui va arriver. Là, j'espère qu'on lui coupera pas l'herbe sous le pied. Mais, tu sais, c'est délicat ce que je vais te dire là, pas par rapport à Pascal, mais par rapport à l'équipe. Mais puis peut-être que vous autres, vous pensez que vous êtes une meilleure équipe que ce que vous avez montré sur la glace. Mais moi, je trouvais, quand j'entendais le discours des dirigeants, puis avec l'embauche de Babcock, tu sais, je suis pas là. Je peux pas analyser le club comme on voit pas les Blue Jackets aussi souvent que le Canadien. Mais je trouvais qu'on manquait de lucidité, qu'on surévaluait un petit peu ce qu'on avait comme équipe, en parlant, tu sais, on avait des grandes ambitions, mais c'est peut-être parce que de quoi qui a pas marché, là, mais t'es pas obligé d'être d'accord avec la prémisse de ma question, mais tu penses-tu que les dirigeants sont comme revenus un peu plus, sont plus lucides par rapport à l'évaluation du groupe qu'ils ont, puis ce qu'ils ont besoin pour la suite?
Écoute, Moi, je peux pas parler pour les dirigeants. Je peux juste parler que c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements dans l'organisation. Ça va partir d'en haut jusqu'en bas. Je pense pas que le nouveau directeur gérant puis son staff qui va rentrer, je pense pas qu'il y a personne qui doit se sentir à l'aise. On a fini dernier dans l'Est, quatrième avant de quatrième dernier, si je peux dire ça comme ça, dans la Ligue. Il n'y a pas personne qui doit être satisfait de ça. Donc, moi, de la façon que je le vois, c'est quand le nouveau directeur gérant va rentrer, on va avoir plus de réponses, puis on va avoir une idée où s'en aller.
Oui.
Je pense que c'est de là qu'on va pouvoir faire une bonne évaluation de ce qui est arrivé. Mais, écoute, l'organisation a fait des décisions. On n'a pas de directeur gérant pour l'instant, puis... Je pense que tant que ça, c'est pas réglé, c'est dur de dire d'autres choses par rapport à ça.
Oui, t'as raison. Regardes-tu les séries un peu, Mathieu, à travers tout ça?
Absolument, je suis en train de faire ça à l'instant.
Qu'est-ce qui te frappe quand tu regardes du hockey de série?
C'est pas le fun de ne pas être là. Ça ressemble pas mal à ça.
Ben, j'aime ça que tu le dises, puis on espère que tous les joueurs qui manquent les séries, dont un club pas loin de chez nous, pensent de même. En chaque chose en son temps, là, je le dis à la blague, mais oui, ça te démange, hein, j'imagine, parce que ça doit être surtout un gars de ton style. J'ai l'impression, Mathieu, que quand tu auras l'occasion de replonger dans ce hockey-là, ta valeur va grimper. Parce que il y a deux saisons, il y a trois saisons à mon avis. Tu sais, il y a le début de saison où on donne des juniors sont là. Tu sais, puis toute la ligue fait la même affaire. Fait que tu sais, tout le monde est sur le même palier. Après ça, les fêtes arrivent. Après ça, il y a le trading deadline. Après ça, il y a le stretch de fin de saison. Puis là, les séries. Puis j'ai l'impression que c'est là que tu vas pouvoir complètement t'épanouir. Je sais pas si c'est comme ça que tu envisages d'y retourner.
Ben moi, je te dirais que à partir de Noël puis du All-Star Break, du match des étoiles, c'est toujours là que je joue mon meilleur hockey en fin de saison. Avec Nashville, j'ai eu la chance de jouer 5 joutes en série. Écoute, c'est sûr que c'était le début de ma carrière, mais j'ai toujours eu l'impression que malgré le fait qu'on ait perdu les deux séries puis qu'on ait été exclu en première ronde, c'était du hockey qui était très similaire à mon style de jeu puis qui fitait bien avec moi.
Vraiment.
Donc c'est facile pour moi d'en parler maintenant, mais je suis pas là à l'instant, donc je ferai pas de promesses, je commencerai pas à faire de prédictions. Par contre, c'est sûr que je regarde ça à la télé puis c'est dur pour moi de pas m'envisager là-dedans.
Je comprends donc. As-tu un club, tes autos s'affrontent évidemment plus souvent dans l'Est que dans l'Ouest, parce que tu connais bien l'Ouest, évidemment, après tes trois campagnes passées avec les Prédateurs. Sur qui tu miserais? Qui tu penses qui est équipé pour aller jusqu'au bout?
C'est difficile à dire. Écoute, dans l'Est, j'ai vraiment l'impression que les Rangers ont une bonne chance de faire quelque chose de bien. Par contre, la Floride ont un style de série qui fit bien en série. Ils sont profonds. S'ils ont des blessés, ils ont des gars qui sont capables de rentrer pour prendre la place. Donc, je sais pas. Ça va être de savoir. Tu sais, des fois, on pense qu'un style va fitter contre une équipe mieux, mais finalement, la série arrive, puis c'est pas ça qui arrive, donc c'est dur à prédire. Mais mon point final, je sais que c'est un 0 Vegas, mais j'ai, par expérience personnelle, avoir joué contre Dallas cette année, je pense que c'est un club qui est vraiment dangereux pour la Coupe Stanley.
Ben, moi aussi, je les aime. Puis il y a beaucoup de monde qui pense qu'elle a gagné, là, sauf que Vegas, quand l'infirmerie se libère, juste avant le début des séries, m'a dit une affaire que ça change de poil quand tu ramènes Pietrangelo
puis Stone. Ça, c'est sûr, c'est le match-up qui est le plus difficile pour eux autres. Par contre, s'ils réussissent à passer Vegas, je les aime vraiment pour la Coupe Stanley. Je pense qu'ils sont bâtis, ils sont profonds de A à Z. À jouer contre eux, c'est comme s'ils n'ont aucune lacune. C'est vraiment ça, mon impression à moi personnelle. Puis, écoute, les gens peuvent ne pas être d'accord. c'est juste moi, mon impression personnelle, avoir joué contre eux, je pense qu'ils sont vraiment équipés pour aller gagner la Coupe s'ils sont capables de passer Vegas.
Moi, j'aimerais ça parce que c'est un beau modèle d'équipe qui n'a pas été obligé de sombrer dans les bas-fonds pendant plusieurs années pour remonter, tu sais, qui n'a pas été obligé de en tout cas, tu sais, comme tu dis, de gagner à la loterie. Fait que je trouve que c'est un maudit beau modèle, comme quoi il y a plus qu'une recette, tu sais, pour retourner au sommet. Ça a été très médiatisé parce que, bon, les débuts dans la ligue de ce jeune homme-là, avec presque un combat à chaque match, là, tu sais, ça a fait le tour de la ligue. Puis le combat que tu as eu avec Rampe, je sais pas ce que tu en as pensé comme joueur de hockey. Bon, il est tout jeune, il arrive dans la ligue, mais les gens qui te connaissaient pas, puisque ça a fait, les images ont fait le tour de la ligue, ils ont découvert que Mathieu Olivier mesurait peut-être pas 6-6, c'était 6-1, mais aïe, aïe, hein, au palais, c'était tout un combat, puis t'as vraiment bien paru là-dedans.
Ouais, ben écoute, c'est dur pour moi de parler de ça. C'est pas quelque chose que
je comprends.
J'aime en particulier parce que ça peut arriver à n'importe qui. Dans le sens que ça on peut toujours être du mauvais bord d'un combat, ça peut arriver à n'importe qui. Donc pour moi de parler d'un combat qui a bien été personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime. Par contre, c'est sûr que comme tu l'as dit, ça l'a fait parler beaucoup. Beaucoup de gens qui ont regardé, qui ont pris note. Je te dirais qu'à Columbus, il y a beaucoup de gens maintenant qui... je peux aller à l'épicerie puis je me fais reconnaître grâce à ça. Donc, c'est niaiseux comme ça, mais...
Mais c'est ça qui est ça, pareil. C'est la ligue nationale, la notoriété.
Je veux pas virer ça à quelque chose qui est pas, mais je pense que ça fait juste prouver que... Les gens qui pensent que les combats, ça s'en va, puis les combats, ben, si pis ça, ben, il y a une valeur que les gens aiment encore, tu sais, on va dire ça comme ça.
Puis il y a une valeur ajoutée pour une équipe aussi, je pense, veut pas, là.
Ah, absolument, absolument. Écoute, il y a toujours, ce jeune homme-là, il y avait 3-4 games dans la ligue, puis on savait qu'il s'en venait en ville, donc, ça dit quelque chose, là.
Hey, je comprends donc. Alors, retour au Québec bientôt, Mathieu, puis si jamais ça donne, écoute, en route vers Lévis ou un petit séjour à Montréal, j'aimerais tellement ça t'accueillir en studio. Nous, on s'appellera en dehors des ondes, mais un gros merci. Toujours agréable de s'entretenir avec toi. Fait que, ben bon, bonne fin de ma foi, de séjour scolaire à ton garçon, puis à toute la famille, puis à bientôt, j'espère, Mathieu.
Ben, c'est super, Mario, merci, puis écoute, à la prochaine.
À la prochaine. Mathieu Olivier.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Mais d'abord, un gars qui doit avoir une petite semaine tranquille, André Tourigny qui est avec nous. Salut André.
Ça va bien?
Ça va très bien. C'était-tu une semaine tranquille ou une semaine de malade?
On est pas mal dans le deuxième cas. Là. Écoute, la fin d'une saison dans la Ligue nationale, c'est beaucoup de travail parce que tu fais tes bilans, tu revises tout dans le fond. T'as tes meetings avec le management, t'as tes meetings avec le high performance, avec tes gars d'équipement, tes gars médicaux, tous tes coachs, tes cours de développement, tes gars de skills, tout ça. Mais on parle de, on revise toute la saison, t'as tes exit meetings avec tes joueurs, t'as tes meetings avec tes leaders, avec le leadership group. Fait que tu sais, il y a énormément de travail à faire pour justement faire un bilan. Puis ensuite de ça, on se bâtit des tâches pour les playoffs, des choses à observer, des choses qu'on peut voir de d'autres équipes, des choses que d'autres on cherche à être meilleurs, mais c'est quoi qui se fait dans les séries, mais quelle équipe qu'on pourrait suivre. Fait que c'est beaucoup de travail. Puis tu rajoutes à ça l'équipe qui donnage, puis toutes les choses qu'on a à faire à sortir de l'exilé, ça fait des bonnes semaines.
Hey, je comprends donc. C'est quoi votre bilan? Je sais pas qu'est-ce que tu peux nous partager publiquement, André. Je comprends qu'il y a un aspect là, confidentiel à tout ça, là, mais tu sais, c'est, je sais pas comment dire ça. Là. C'est pas votre niveau de satisfaction, votre niveau de déception par rapport aux circonstances qui vous entourent toute l'année, puis votre plafond salarial qui est loin d'être utilisé au max. Là, y a-t-il lieu, à part la mauvaise séquence négative à un moment donné, là, qui vous a fait glisser, avez-vous une certaine satisfaction de ce que vous avez accompli dans la dernière campagne?
Ben, quand je le mets en perspective, t'sais, les gens, mes chums, le monde du Québec, quand ils me parlent de ça, je vais l'approcher comme ça. Là, trois ans, le Canadien a fini 32e, on a fini 31e, coupe de points, on avait un point en avant du Canadien ou quelque chose de même. On a battu la dernière game de l'année. L'année d'après, qui était l'année passée, si tu veux, ils ont fini 5e avant de rien, on a fini 6e. On a fini juste en avant d'eux autres encore. Cette année, on vient de finir juste en haut d'eux autres. Quand vous regardez la saison du Canadien, ce que j'ai l'impression que j'ai de loin, c'est que les gens sont satisfaits, ils trouvent qu'il y a une progression, des belles choses qui s'en viennent. Ben, on a le même genre de courbe que le Canadien. Tu as parlé des circonstances alentour de notre équipe, tu as parlé des 14 games d'affilée. Imagine si on n'avait pas eu ces 14 games d'affilée-là, si on avait juste joué, mettons, pour 400 dans cette
match-là,
imagine. Comment on se rend avant. Donc, quand on met ça en perspective, on voit beaucoup de belles choses, on voit les choses qui sont bien faites. C'est sûr que, un petit peu comme tout le monde dans le monde du hockey, satisfait, ça dépend. Là,
on l'est jamais.
Satisfait. On en veut toujours plus.
Ouais. Entre-temps, bon, évidemment, qu'en toile de fond, le déménagement, as-tu appris des choses dans la dernière semaine par rapport au futur immédiat de votre équipe, de votre groupe, ton avenir?
On part demain là, pour aller justement là, à Salt Lake City, donc on va en savoir plus là, à ce moment-là. Là, comme j'ai dit, là, cette semaine, on a travaillé toute la semaine, on était débordés. Là, c'est pas... une période très, très relaxe. Au contraire, c'est une période où, tu sais, on a beau déménager, puis être curieux, puis garde, j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte d'être là, je suis excité. En même temps, il y a une job à faire ici, là. Tu sais, faut pas se perdre, là. Faut s'assurer que nous autres, on va continuer à chercher à être meilleur, parce que l'année prochaine, on veut être meilleur. Fait que, il faut s'assurer de rester sur la tâche, puis de bien évaluer les choses qu'on a faites comme il faut, puis les choses qu'on veut continuer à améliorer, puis les choses que on recherche à améliorer, donc c'est important pour moi qu'on reste focus sur les choses qu'on veut améliorer.
Toi, comme coach, André, là, tu sais, c'est il y a quelqu'un qui t'évalue, t'es un DG, mais j'imagine que tu t'auto-évalues beaucoup. Comment tu fais pour progresser puis toujours trouver quelque chose de nouveau, rafraîchir ton discours, si c'est nécessaire? Peut-être que c'est pas nécessaire. Tu sais, je suis pas coach d'élite dans la ligue, mais comment tu gères ton propre cheminement, toi, puis ta propre amélioration?
Ben moi, j'essaie d'aller chercher sur plusieurs aspects. Un, je passe un questionnaire confidentiel aux joueurs. Je passe questionnaire qui est pas confidentiel pour justement voir les points que j'ai améliorés, les choses que j'essaie d'avoir des discussions les plus ouvertes possibles avec les gens qui m'entourent. Pour moi, c'est quand j'ai des gens qui m'entourent, ça peut être les joueurs, ça peut être les coachs, ça peut être mon GM, ça peut être n'importe qui. Oui, dans ma personnalité, tu sais, je veux progresser, je veux être meilleur. Tu sais, en anglais, les either get better or you get worse. Tu sais, il n'y a pas de statu quo, ça n'existe pas de statu quo pour moi. Fait que, c'est des choses qui me tiennent à cœur, puis je, à tous les ans, pour moi, l'été, l'exemple, je vais lire, à tous les jours, je me dis, il faut que je m'améliore. Donc, c'est-tu par lire, c'est-tu par regarder une conférence, c'est-tu... des fois, il y a des shows sur Netflix là, qui sont intéressantes sur le soccer ou sur d'autres sports qui m'ouvrent des horizons et qui m'amènent des façons de voir les choses différentes des fois. Donc, pour moi, c'est important de tous les jours d'essayer de m'éduquer un petit peu et d'être meilleur. Tu sais, quand le 4 juillet, là, des fois, c'est pas tout le temps facile, mais que ce soit de lire un livre, que ce soit n'importe quoi, de chercher à avancer un petit peu à tous les jours. Puis, j'essaie d'aller chercher le plus d'informations des gens qui m'entourent,
le plus possible. Si t'avais décortiqué ça, là, la tarte en morceaux, en pointe de tarte par rapport à des thématiques, là, quel aspect prendrait de psychologique dans ton évolution?
Oh, beaucoup de place. Moi, je pense que c'est là que la game est allée, là. On n'a pas, pour moi, tu sais, quand tu dis le mental, ben, c'est le mental, mais c'est aussi le relationship, le leadership. C'est ça pour moi qui fait la différence. C'est comment qu'on bâtit des relations avec les joueurs, comment qu'on fait pour être meilleur à communiquer avec les joueurs. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est primordial.
Sans aucun doute, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup qui se passe là. Par contre, quand on regarde en série, il y a d'autres éléments que le psychologique. Ben, peut-être que ça vient, que ça rentre dans la tête quand tu joues contre des gros clubs physiques. Penses-tu que, puis êtes-vous soucieux de ça? Combien de petits joueurs tu peux avoir dans un club puis espérer un jour tout gagner, selon toi? Puis tu, comment vous analysez le talent puis vous intégrez des gars à votre alignement par rapport à cette réalité-là? C'est pas pour rien que ces gars-là déboulent au repêchage. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
Mario, c'est quoi un petit joueur pour toi?
Ben écoute, il y en a qui jouent gros, je comprends, tu sais.
Je viens de voir, la game t'aime pas bien, là. Je viens de voir Brandon Point, juste en avant du goaler, qui a boxé out le défenseur, puis il a fait de vie à puck, puis il a fait 2-1. C'est drôle, là, il était pas trop petit, là. En anglais, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. C'est un peu ça. Pourquoi? Tu regardes Zach Hyman, tu vas me dire qu'il n'est pas petit, mais il n'est pas gros non plus. Là. Puis, regarde, c'est probablement le meilleur joueur dans la ligue en avant 19. Pour moi, c'est toujours comment tu veux le voir. Puis, ce que tu veux voir, moi, je pense que ce qui est important, c'est que le gars soit capable de performer dans une zone restreinte, où est-ce que ça paye, qu'il est capable d'aller où est-ce que c'est tough. Et à partir de là, pour moi, c'est pas une question de grosseur, c'est une question de willingness, de y aller jusqu'à ce que ça compte.
Ben, moi, je te rejoins, puis ce que tu me dis, tu sais, je me rallie totalement à ce que tu dis là. Il y a des cas d'exception, il y a des gars d'exception, puis j'ai hâte de voir, exemple, où que Quinn Hughes va pouvoir aller éventuellement dans les prochaines années comme corps arrière, capitaine des Canucks de Vancouver. Puis tu devines que, tu sais, en arrière-pensée, on pense à un gars comme Lane Hutson. Bon, on a Caulfield en attaque, tu sais, mais on a deux gars qui sont pas bien gros. Je te rejoins, mais je suis obligé de constater, André, que les clubs qui gagnent, ils n'ont pas tant que ça, ils n'ont pas bien. On appelle ça quasiment des exceptions. Serais-tu d'accord pour dire que c'est des exceptions? Ça, les gars comme Point et compagnie ou pas nécessairement?
Ben, pour moi, c'est... Faut que tu sois capable de jouer en dedans. C'est pas une question de... C'est pas juste une question de size. J'aime pas ça quand le monde prenne le tape à la balance et dit, ah, lui, il est bon, lui, il est pas bon.
Je comprends.
Et là, dans le sens que le monde fait une liste des tueurs qui le font pas. Ah ouais? Ben, nous, quand on fasse une liste des gros qui le font pas, vous allez voir que la liste est probablement plus longue.
Ça, c'est bon.
Tu sais, là, il y en a un paquet de gros qui vont pas ce que ça paye, qui restent à l'extérieur, etc., etc. Fait que c'est pas une question. Moi, là, je sais que le monde de Montréal veut pas entendre ça, là. Le Brendan Gallagher, là, trois fois qu'on joue contre, il est fatigué en temps de m'amener. Il rentre en dedans, puis il cul par dessus tête, puis il est dur à jouer contre. Tu sais, il est tout petit, mais ouais, il est pas tout petit, mais tu joues contre, là, il est gros, il est fatiguant, il est dur à contenir, il rentre en dedans, il est toujours dans tes gants, il est fatiguant. Tu sais, je sais qu'il est plus le joueur qui était le 5 ans, mais il est encore, il est fatiguant pareil, là, puis il a été fatiguant pendant longtemps. C'est pas la grosseur du joueur, c'est la façon qu'il joue. Fait que, faut faire attention. Avec le size, il y en a des gros qui rentrent pas en dedans, puis il y a des gros. Tu sais, Nick Paul, il est gros, puis il rentre en dedans. Il est tout le temps devant du net, il est fatiguant, il est où est-ce que ça compte. Bon, OK, ben oui, c'est sûr que des gars de main, ça en veut, mais il y en a d'autres, des gros, que ils vont pas souvent, là. C'est plus comme dans le temps. C'est pas une question qu'ils ont peur, là. Oui, il n'y a plus personne qui a peur. C'est pas ça. C'est une question de... T'as moins d'espace, t'es dans l'espace restreint, t'as pas le temps de prendre des décisions, ça tout va beaucoup plus vite. Fait que tu sois capable de faire ça quand t'es à l'intérieur. Quand t'es à l'extérieur, t'as plus de temps, d'espace avec la rondelle, plus de temps pour prendre des décisions, etc. Quand tu te mets à jouer en dedans,
là,
il n'y en a pas trop de ça. Du temps, de
l'espace, il n'y en a pas. J'ai été particulièrement impressionné, puis tu le connais bien mieux que tous nous tous là, ensemble, là, mais je veux dire, de ses débuts dans la ligue, tu sais, que Bédard, il va à l'intérieur. Honnêtement, tu sais, c'est pas un gros joueur, quoi. Ce que je vois, le 5 et 10, 185, je sais pas jusqu'à quel point c'est juste, mais ça, c'est impressionnant d'avoir un petit joueur, là, sans s'acharner sur les gabarits. Même Hutson, en deux, un court échantillon, Montréal, tu sais, de voir qu'il essayait de faire les mêmes affaires que dans l'ère universitaire, puis faire les mêmes jeux, quitte à payer le prix. Je trouve quand même ça courageux, assez impressionnant de voir ces gars-là aller.
Mais moi, de façon de jouer, c'était... excusez.
Il n'y a pas de toi.
J'ai regardé mon écran, puis j'ai vu un nom. C'est le joueur...
C'est pas Steve Taos qui essaie de t'amener à Ottawa, toujours, là.
Non, c'est pas ça, pas en tout. C'est d'autres jours. Mais ça pour dire que c'est... le joueur qui arrive des collèges puis du junior, souvent, il essaie de reproduire ce qu'il faisait junior. Puis c'est là qu'on va voir comment il va s'ajuster. T'sais, puis la première année, c'est, pour moi, c'est pas tant... Il va être capable de le faire. Là. Il a du talent. Là. Je suis pas inquiète là-dessus. C'est que quand le monde va s'être ajusté à ça. Je donne un exemple. Samuel Girard, sa première année, là, faisait son spinorama, là, la tornade de rebarbage, je sais pas trop comment il appelait ça, une affaire de main. Ça veut dire de quoi? Là, personne ne le pognait. Là, à cette heure, là, on le sait, qu'est-ce qu'il fait. Puis en plus, tu trouves d'autres manières. Là, tu regardes tes games, tu ne vois pas toutes les games faire sa pirouette, là, faire son 360, là, parce que les clubs s'assient dessus, puis ils me voient, puis on est prêts, là, il nous aura pas de même à tout le temps. Fait, va-tu être capable de s'ajuster? Va-tu être capable de trouver un autre mot? Va-tu, etc., etc. Fait que, tu sais, je suis pas inquiète pour lui. Il a du talent. C'est juste qu'à un moment donné, il va s'ajuster. Il y a des choses qu'il faisait à sa première année qu'il ne fera plus. Puis
ouais,
des
ouais.
choses qu'il peut faire beaucoup mieux, puis etc., etc.
Qu'est-ce qui t'intrigue le plus, la veille d'être à Salt Lake? C'est temps de terminer, André?
Oh my God. on a combien? Plein d'affaires. Honnêtement, j'ai hâte de voir les fans. J'ai hâte de voir l'aréna. J'ai hâte de voir les neighborhoods, les quartiers, j'ai hâte de voir l'organisation, j'ai hâte de voir la réaction de nos joueurs, j'ai hâte de voir la réaction de notre staff, j'ai hâte de voir comment ces gars-là vont être accueillis. J'ai hâte de tout, là, tu sais. Pour moi, Phoenix, ça finit aujourd'hui, là. On a fini nos meetings, là. J'ai fini mes meetings à 1 heure, là. Là, on pense à Salt Lake City. Même après, on prend l'avion, puis là, je suis vraiment excité.
Ben, je comprends donc. Ça va changer de nom, j'imagine, André? Ce sera plus Coyote?
Ben, non, c'est pas Coyote. Les Coyotes n'ont pas été vendus. Les Coyotes sont encore Phoenix.
T'as raison. OK. C'est un peu comme les expos quand ils sont déménagés ou je me mélange là, peut-être, là, mais OK. Ben, écoute, j'ai hâte pour toi. J'ai hâte de voir que tu aies des réponses à toutes ces intrigues-là. André, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir, comme d'habitude.
Merci, Mario. Bye-bye.
Merci. Une bonne soirée. Bye-bye. André Tourigny.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est phénoménal ce que cette Canadienne, cette Québécoise âgée de 25 ans a réussi en fin de semaine dernière. Elle a fracassé un record canadien vieux de 36 ans dans le cadre d'une compétition qui avait lieu en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, en fait, c'est-à-dire, je me corrige par rapport à l'introduction d'ailleurs, elle est porte-couleur du rouge et or de l'Université de Laval et elle a maintenant un chrono de 10,96. Le record précédent datait quand même d'un certain temps. Là, Angela Bailey à Budapest en 1987. Alors, c'est remarquable et c'est une progression spectaculaire. Elle qui courait, qui enregistrait des temps de 11,48, 11,43 en 2019, 2021, 11,23 en 2023, ça vous donne une idée. Et elle est avec nous au téléphone, toujours d'ailleurs en Nouvelle-Orléans. Bien le bonsoir, Audrey Leduc, et félicitations.
Allô. Merci.
Audrey, t'es toujours là-bas sur les lieux, pas du crime, mais les lieux de ton record. T'es attachée au lieu. Il y a d'autres compétitions qui s'en viennent, j'imagine, là-bas?
Oui, puis en fait, pour te corriger, c'est pas en Nouvelle-Orléans, c'est à Baton Rouge qu'on est. C'est tout près, par contre, de la Nouvelle-Orléans, par contre.
Donc, c'est bien en Louisiane. J'avais pas fait d'erreur, donc, excuse. J'ai...
Non, en Louisiane, okay. Mais à Baton Rouge.
OK, d'accord, excuse. J'ai eu des mauvaises références là-dessus, mais ça arrive, hein, comme on dit, on joue en équipe. Donc, c'est bel et bien en Louisiane, c'est ça que j'avais cru comprendre.
Oui.
Et donc, on part à zéro. Comment tu te sens maintenant que tu as fracassé ce record-là psychologiquement par rapport à la suite des choses?
Je me sens bien, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir recourir pour essayer de voir si je suis capable d'améliorer encore une fois ce temps-là. C'est super le fun de pouvoir être la détentrice de ce record-là, d'être une Québécoise qui le détient. C'est le fun de pouvoir faire briller le Québec sur la scène nationale, puis de montrer qu'on est capable de bien courir vite au Québec. Puis, j'ai juste hâte de pouvoir continuer à courir et de voir ce que je suis capable de faire de mieux.
C'est surprenant, puis tu t'en rends compte de par l'intérêt médiatique à la suite de ta performance, parce que, tu sais, des sprinteurs qui ont eu du succès au Canada puis au Québec, sur un territoire encore plus restreint, là, ils sont pas nombreux. Moi, en tout cas, de mémoire, les dernières entrevues que j'ai faites avec des sprinteurs, puis bon, c'était avec Nicolas Macrazonaris, Bruni Surel, je leur ai reparlé bien après leur carrière, mais pour te dire que, je sais pas si j'en ai échappé d'autres sur le radar, mais vous êtes pas nombreux dans le domaine de la vitesse sur 100 mètres ou nombreuses au Canada, n'est-ce pas?
Non, on n'est pas très nombreuses, ni nombreux. Mais nombreux, ben il y a les garçons, là, les gars, c'est un peu de grâce et tout ça, mais.
Oui.
Puis non, on n'est pas tant nombreux que ça. Ben, on va y aller pour les filles, là, de ce côté-là. T'sais, on peut le voir, ça faisait 38 ans là, que le record n'avait pas été battu. Puis avec mon 11,08 aussi, c'était ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas une femme qui avait couru en bas des 11,10 au Canada. Donc, c'est tout à fait vrai là, qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les dernières années.
À quel âge, Audrey, as-tu choisi de l'athlétisme et particulièrement le sprint?
J'ai commencé à 10 ans l'athlétisme, puis j'ai vraiment, je me suis vraiment concentrée sur l'athlétisme à l'âge de, en 2015, donc à l'âge de 16 ans, parce que je faisais aussi du soccer de haut niveau, puis j'ai décidé de prendre la voie là, de l'athlétisme à cette année-là.
Et à quel moment tu t'es spécialisée sur le courte distance et de miser sur tes capacités dans le sprint?
J'ai toujours fait des épreuves de sprint. Par contre, je faisais aussi du cross-country tout pendant mon jeune âge. Là, même au secondaire, j'ai fait du 800 mètres, du 400 mètres, du lancer du poids, qui n'était pas ma force, bien entendu. toutes les épreuves combinées. Donc, tu sais, j'ai touché à beaucoup d'épreuves, ce qui est un peu la base aussi, qui est très intéressant quand on est jeune, là, de faire un peu de tout pour autant développer toutes les habiletés du sport, la motricité et tout ça. Mais c'est vraiment, ça a toujours été dans les 150, 60 mètres quand j'étais plus jeune, mais c'est des distances-là qu'on court. Ça a toujours été dans mes épreuves favorites. Donc, c'est juste, naturellement, les autres épreuves ont sont juste disparues année après année. Puis je faisais aussi du son hauteur. Donc, on a fait des choix. Donc, c'est juste été graduellement, OK, on va juste garder les épreuves plus de sprint et de saut en longueur. Puis, c'est ça.
Et la flamme initiale, je suis toujours un peu fasciné de ça, surtout dans les sports olympiques. Là, est-ce que dans la famille, ça courait, vous étiez plus dans l'athlétisme que dans les sports collectifs?
Dans le fond, mes parents ont joué au badminton tous les deux. Ma grand-mère m'a souvent raconté qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition, elle, dans son temps de faire de la course, mais quand elle en avait fait une, elle l'avait gagnée. Puis s'il y avait de l'athlétisme, elle en aurait probablement fait, puis elle aurait probablement été très bonne. Mais sinon, mes parents ont toujours été des sportifs, là, depuis qu'ils étaient tous jeunes, ils ont toujours fait du sport, ils en font encore. Alors, j'ai aussi dans ma famille, là, ça touche à tous les sports. Donc, je dirais que c'est un peu dans la génétique d'aimer le sport. Puis, au niveau plus du sprint, c'est juste ça l'a donné comme ça.
Là. Je plonge dans le sprint, puis là, dans le présent, en 2024, quelques jours après le record que tu viens d'établir, donc en Louisiane, un 10,96. Trois semaines auparavant, tu avais couru un 11,... Non, en 2023, pardon, tu avais couru un 11,23, mais trois semaines auparavant, tu avais couru un 11,08. Comment, c'est quoi le nombre d'heures d'efforts d'entraînement? Puis, il n'y a pas de garantie que tu vas courir aussi vite la prochaine fois, mais pour gagner chaque fraction de seconde, qu'est-ce que ça représente, Audrey?
Ben, on s'entend. C'est un sprint, c'est sur 100 mètres, donc c'est pas une très longue distance. Donc, c'est quand même assez avec précision qu'on doit exécuter nos trucs. C'est juste de continuer à travailler, de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on voit que ça fonctionne bien là, dans l'entraînement et tout ça. Mon coach gérant a trouvé la clé. Donc, c'est juste de continuer à maintenir ce qu'on fait, de continuer à essayer d'améliorer les éléments techniques qui sont améliorés qu'on a vu dans la course, par exemple. Puis, on est en début de saison, donc on n'est pas en train de faire notre pic actuellement. Donc, le pic est planifié, là. C'est, oui, on aurait dû un petit peu d'entraînement pour les compétitions-là, mais on va recommencer à s'entraîner au mois de mai pour un bloc de 3 semaines. Donc, l'objectif, c'est de recommencer à faire un peu plus de volume après le petit compétition qu'on avait aux États-Unis puis au Bahamas, là, qui s'en vient. Après ça, on va continuer à aller faire plus d'entraînement. Donc, logiquement, là, c'est vraiment au championnat canadien où est-ce qu'on est supposé être à notre maximum là, dans notre groupe d'entraînement. Donc, encore place à l'amélioration, puis encore place à pouvoir courir plus vite.
Ben, c'est le fun. Ça doit être stimulant. Je sens, je sais pas, il y a un petit quelque chose là, qui est intangible, qui ressort de ça. Je te vois pas le visage, mais t'as l'intention de courir plus vite. T'as ton standard olympique, mais si je comprends bien, t'as pas la garantie de participer aux Olympiques. Qu'est-ce qui te manque pour cette confirmation-là? Est-ce que ce sont les championnats canadiens qui vont t'offrir l'opportunité de cocher le check?
Dans le fond, c'est que... Si il n'y a pas rien qui change, je vais aux Jeux olympiques. C'est simplement que s'il y avait 4 personnes dans l'équipe canadienne qui pouvaient, des Canadiennes qui faisaient le standard également, là, c'est là que ça pourrait venir changer les cartes parce que là, ça serait plus discrétionnaire, ça pourrait dépendre des temps, ça pourrait dépendre des résultats championnat canadien. Par contre, si rien ne change, peu importe mon rang championnat canadien, je vais aller aux Jeux olympiques parce que j'ai le standard. Donc, ça va vraiment dans cet ordre-là. Puis c'est juste parce qu'ils peuvent pas confirmer maintenant, parce que si jamais on était 5 filles au Canada à faire le standard, puis à courir, à se battre encore plus avec les meilleurs, aller dans les 10 secondes, si on passe dans ce scénario-là. Fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent pas confirmer maintenant. Par exemple, en fin de semaine, il y a eu la marche athlétique, il y avait une compétition, là, je pense, si je me souviens bien, puis je dis bien les bonnes informations, c'était la sélection olympique. Donc, eux, ils le savent en avance parce que c'est pas tout le temps qu'on fait des grandes distances de marche qui sont organisées. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là. C'est comme le marathon, il y a la sélection olympique, elle est plus tôt qu'au championnat canadien. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils ne peuvent pas dire « Ah oui, on y va maintenant ».
Tu as pris le deuxième rang de cette course où tu as établi le nouveau record canadien, le 10,96. Tu courais derrière, ou en tout cas au côté, là, à peine une fraction de seconde derrière, Alea Hobbs, elle qui enregistrait un 10,88. Tu t'attendais à une bonne performance. Est-ce que le fait de courir avec quelqu'un de rapide, il y a un effet d'entraînement psychologique ou autre, de tu sais, comme tu sais que tu cours avec une des plus rapides sur 60 mètres au monde, une fille qui avait fini deuxième au championnat du monde en 2022, y a-tu de quoi qui se passe? Y a un déclic qui fait que ça va t'amener à être plus rapide?
C'est certain. De courir contre des gens, c'est ça qui aussi va nous challenger sur la piste. Donc, quand on court toute seule, moi, je suis quand même rendue. Je ne vais pas vous cacher, je suis quand même rendue bonne avec ça parce qu'à l'intérieur aussi, j'ai fait beaucoup de compétitions où est-ce que j'étais plus en avant de la tête et de la course. Donc, ça fait en sorte qu'il faut qu'on soit tout challenge dans ces moments-là. Par contre, c'est pas pour rien qu'on court contre des gens. Donc, quand on s'aligne contre des personnes qui courent plus vite que nous, ben, ça nous challenge. Puis, dans mon cas, à moi, je trouve que c'est vraiment le cas, là, ça me pousse à aller plus vite parce qu'ils sont là, puis c'est comme un objectif de vouloir rattraper la personne. Quand on est seul, on sait pas nécessairement où on se situe, puis c'est quoi le temps, à quoi le temps peut ressembler. Parce que Alia Hobbs, dans ses temps, elle, c'est souvent dans les 10 quelque chose. Donc, elle est régulièrement, dans les années précédentes, elle a régulièrement été dans les 10 secondes. Ce qui fait en sorte que quand j'étais près d'elle, j'étais comme, OK, ben je pense que, tu sais, ça peut être dans les 10 secondes ce temps-là parce que j'étais quand même assez près, puis les autres filles n'étaient pas devant moi.
Est-ce que ça te fait rêver sans trop te t'amener dans le futur? Tu sais, veux pas. Moi, en tout cas, là, je prends des raccourcis vite, je regarde ton chrono, je regarde le sien, je regarde le record du monde. Je me dis, waouh, attachez votre truc, Audrey le Duc s'en vient. Là.
Le record du monde, ça fait rire. Je pense pas que ce serait pour cette année. Je veux pas me mettre des limites, mais on s'entend que c'est quasiment une seconde là, de différence que ça serait de mon temps de l'année passée, là, parce qu'on a dit 11-23, mais au dernier jour, je pense que c'est le bon temps, là, puis je sais qu'il est sorti dans un article ce temps-là, mais j'ai dû courir 11-30 au championnat canadien avec un vent illégal, par contre. Dans mes souvenirs, c'est mon meilleur temps de la saison, là. Mais ça serait quand même vraiment un gros gap, je dirais, les championnats du monde. Mais si on parle d'une finale olympique, je pense que c'est plus réalisable là, que... Mais je ne vais pas mettre de limites. Je vois qu'on peut rêver, mais je suis pas sûre que ce serait cette année cet objectif.
En tout cas, on dirait que tu as du fun avec ça. Audrey Leduc, en entrevue avec nous, nouvelle détentrice du record du 100 mètres canadien, on sent ton sourire dans la voix, fait que ça te rend heureuse très certainement de faire de l'athlétisme au plus haut niveau.
Oui, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de... En fait, je vais être honnête, là, dans les dernières années où c'est le fun, mais c'est quand on atteint des performances comme ça, quand on atteint un autre niveau, ça rend ça encore plus le fun. Puis ça, j'allais vraiment découvrir cet hiver où est-ce que j'étais moins stressée puis plus excitée d'aller courir puis d'aller voir qu'est-ce que j'étais capable de faire sur la piste. Puis c'est vraiment, j'ai gardé cette énergie-là puis c'est cette émotion-là avant d'embarquer sur la piste à l'extérieur également. Donc, c'est pas vraiment le stress qui embarque, c'est plus l'excitement de pouvoir voir qu'est-ce que je suis capable de faire à nouveau. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir cette sensation-là avant d'embarquer sur la piste, là.
Oui, surtout que ça prend un mental d'acier, puis une persévérance, puis une patience, parce que, tu sais, quand tu vas retrancher des dixièmes de seconde, tu sais, que ça prend, tu sais, comme tu le disais, là, tu sais, ça serait quasiment inimaginable, là, entre ton temps de l'an passé, puis les Olympiques, tu sais, ouais. Exemple de penser un record, là, tu sais, qui dépasse l'entendement, fait que, hey, ça prend comme, dans quel état d'esprit tu te mets pour justement avoir cette patience-là d'avancer tranquillement vers le sommet, mais à coup de fraction de seconde?
Mais je dirais que le travail de plusieurs années, ça a commencé avec mon premier entraîneur à Gatineau, puis ça s'est poursuivi avec mon entraîneur actuel. C'est juste un processus Il faut pas sauter d'étapes, puis ça, c'est vraiment important, que ce soit quand on est plus jeune, qu'on veut faire les championnats du monde junior, de jeunesse, peu importe. C'est vraiment, c'est un processus, c'est des étapes par étapes, puis c'est pas de sauter d'étapes. Donc, ça, cette patience-là que j'ai actuellement, bien, je l'ai acquis au cours de tout mon parcours, puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis l'athlète que je suis, puis que je suis capable de dire, ben c'est pas grave, ça doit arriver quand que c'est supposé arriver. Puis, on fait juste continuer à travailler sur ce qu'on travaille, puis c'est d'accumuler ces changements-là au fur et à mesure, puis ces modifications-là au niveau technique, au niveau entraînement, peu importe, puis qui vont mener au résultat en bout de ligne sur la piste.
Au 100 mètres, traditionnellement, puis peut-être que ça évolue, puis on le constatera aux prochains Jeux olympiques, mais j'ai toujours eu l'impression que l'entraînement, bon, je sais que c'est très, très vaste, il y a plusieurs aspects à l'entraînement, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a compris que plus ta musculature était comment dirais-je, tu sais, des corps d'athlètes là, hyper musclés, que ça ajoutait au chronomètre. Est-ce qu'en sprint féminin, c'est aussi vrai? Est-ce que l'entraînement vous dirige encore vers là pour aller chercher des fractions de seconde?
Dans mon cas, pas nécessairement. Je pense que ça peut varier aussi. On a plusieurs types d'athlètes. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plus minces puis qui sont plus au niveau des tendons qui vont courir. Il y en a d'autres qui vont courir avec... Il y en a qui ont des grosses cuisses puis c'est avec ça qu'ils vont courir plus vite. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la physionomie puis la physiologie de l'athlète en question. Puis, c'est ça qui va faire qu'on a des bons entraîneurs. C'est quand on est capable de modifier les entraînements selon comment que l'athlète est formé. Puis dans mon cas, c'est pas la grosse musculature, c'est pas faut oui avoir des muscles parce qu'on courra pas si on est musclé ou on fait pas de la musculation parce que on s'entend c'est ça qui nous fait avancer, mais dans mon cas c'est mon entraîneur du souvent qui fait avec mes tendons, puis c'est ça qui fait que rend mon côté plus élastique. Donc c'est un côté qui est plus c'est quand on voit que ça court vite, là, c'est vraiment rapide. Je sais pas comment le décrire, là, mais c'est André Degrasse aussi, il y a ce côté-là, quand on le voit, là, des fois, il va partir puis il va ouvrir. Mais c'est un peu ce côté élastique-là, tendineux, qui vient créer cet effet-là sur la piste. Donc, c'est peut-être un peu différent au niveau entraînement et au niveau des muscles. Donc, c'est peut-être pour cette raison-là que moi, je suis moins musclée. Tandis que d'autres athlètes qui vont vraiment y aller avec plus les muscles parce que c'est ça qui vont les faire courir plus rapidement.
C'est une très belle explication, puis je la comprends. Puis on a le vidéo puis l'audio de ton 100 mètres où tu as établi ton record. Bon, les gens ne verront rien, mais juste pour nous mettre dans l'ambiance. Et en ce sens que ce que les gens ne verront pas, tiens, on va entendre le coup de départ. Et c'est parti, c'est pas long, 10 secondes.
Leah Hobbs, Tiger Olympians. Leah Hobbs, Tiger Olympians. Audrey LeDuc, Athletics Canada.
Audrey LeDuc, qui termine au deuxième. Alors, t'arrives-tu devant tes amis pour... non, t'as pas le temps, ça vient d'arriver, mais vous avez devant vous la deuxième femme la plus rapide au monde en 2024. Ça se glisse bien d'une conversation, ça, Audrey?
Oui, ça se glisse bien.
Mais, sais-tu ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que j'aime la comparaison avec Degrasse, c'est que au début, tu sais, tu te démarques pas quand on regarde juste l'image, puis à un moment donné, ton direct, la transmission clenche en grande vitesse, toi là, puis whoop, j'ai l'impression que si t'avais 10 mètres de plus, tu finissais première. Je sais pas si c'est l'illusion d'optique, là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, mais je suis pas un analyste ni un spécialiste, mais c'est-tu de même que tu te sentais que, boum, on dirait que quand t'es parti en grande vitesse, il y avait rien qui était pour t'arrêter là, là.
Ouais, je suis 100% d'accord à ce niveau-là. Par contre, je sais pas si je pense que oui, j'aurais été capable d'aller passer, mais en même temps, j'étais en train de me battre contre moi-même à ce moment-là pour pas perdre ma position de course. Parce que à ces vitesses-là, c'est une nouvelle vitesse que j'ai jamais touchée. Je pensais que j'avais mon bassin, il voulait plus s'incliner vers l'avant. Donc, ça allait me mettre en cycle arrière. Donc, le cycle arrière, ça s'appelle que nos jambes seront plus il faut comment je peux expliquer ça correctement sans
me
montrer parce qu'on ne me voit pas. Là. Mais par exemple, on a notre jambe au sol, puis on veut étirer notre quadriceps. Là. Ben, notre jambe gauche est au sol, notre quadriceps, on veut étirer notre quadriceps droit. Ben, nos deux genoux sont vis-à-vis. Mais quand on court et qu'on est en cycle arrière, ça fait en sorte que le quadriceps droit va se retrouver plus en arrière. Donc, c'est comme si on l'étirait un petit peu plus, puis là, nos genoux sont plus rendus égaux. Qui fait en sorte que on vient se ralentir. Parce que idéalement, c'est d'avoir nos genoux tout le temps égaux pendant qu'on court, ou même si on pouvait avoir le genou qui est un petit peu plus en avant, qui fait en sorte que ça veut dire qu'on court encore plus vite. Donc, c'est ça que je suis en train de me battre un peu contre moi-même à la fin de la course pour pas perdre cette position-là, puis de continuer à avoir ce champ cet égal, cet genou égaux à ce moment-là. Ce qui c'est pour ça que je suis comme, est-ce que je l'aurais battu? C'est une bonne question. J'ai l'impression que oui, j'arrivais vite, mais j'étais vraiment en train de dire, OK, faut que je garde ma position. La course à 100 000, c'est quasiment la fin. OK, t'es capable. OK, c'est fini.
Écoute, en 10 secondes, faut pas qu'il y ait trop d'enfants qui te passent par la tête parce que c'est vite passé.
Exactement.
Oh boy. Mais Audrey, bravo. On pouvait pas passer à côté de ça, comme tout le monde, là, qui s'intéresse à, on te découvre, dans le fond, le Québec, le Canada te découvre et le monde de l'athlétisme international te connaissait déjà, mais là, je pense qu'ils vont te regarder d'un œil un peu différent. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. C'est très rafraîchissant de t'entendre. Bonne chance pour tes prochaines compétitions. Puis au plaisir de te reparler d'ici les championnats canadiens à Montréal, puis même de t'accueillir en studio, pourquoi pas.
Mais merci beaucoup. Ça va être un fort plaisir de nous voir, de vous reparler à nouveau.
Mais merci, Audrey. Bonne chance pour la suite. Au revoir.
Merci.
Bye-bye. Audrey Leduc, donc la nouvelle reine de vitesse sur 100 mètres au Canada, c'est quelque chose.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Accueillons maintenant le dépisteur des prédateurs de Nashville à la veille de s'envoler pour la Finlande pour le championnat mondial des moins de 18 ans, Jean-Philippe Blaude, que ses amis appellent JP. Salut Jean-Philippe.
Salut Mario.
Jean-Philippe, dis-moi, est-ce que c'est une cuvée excitante que la cuvée 2024 en prévision du prochain repêchage?
C'est toujours, pour les recruteurs, Mario, c'est toujours une cuvée excitante.
Oui.
Mais c'est notre, non, mais sans blague, tu sais, on est souvent influencé, je dirais, par les premiers joueurs qu'on entend, les premiers choix pour se dire si on est excité ou pas. C'est souvent le réflexe, je dirais, des gens. Tu sais, l'année passée, on parlait beaucoup de Connor Bedard, donc automatiquement, tout le monde est excité. Cette année, le consensus va autour de Macklin Celebrini, mais écoute, c'est une si on parle peut-être des 10, 15, 20 premiers choix, tu sais, je veux dire, c'est une QV que va avoir d'excellents défenseurs. Des défenseurs offensifs, des défenseurs tout-way, à travers ça, peut-être pas autant en termes de joueurs élites, là, si on peut dire, peut-être pas autant de Suédois ou Finlandais qu'on voit. Il y a des années qu'on voit beaucoup de ces joueurs de ces pays-là, peut-être moins cette année, beaucoup de joueurs, je dirais, des joueurs canadiens, des joueurs américains. Mais tu sais, l'objectif justement de s'envoler demain avant le championnat, c'est vraiment d'aller les comparer. Comparer les différents prospects, puis après ça, ben chaque organisation a ses joueurs peut-être plus tard dans le repêchage qu'on aime, puis c'est ça qui est le fun, parce que souvent après la deuxième ronde, là, souvent ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, ben on a tous nos objectifs, puis le genre de joueurs qu'on aime, puis ben c'est ça qui rend toujours le repêchage intéressant.
Fais-tu ta liste, puis tu la mesures aux autres dépisteurs de ton organisation, puis vous frottez vos listes les unes contre les autres pour dégager un consensus, Jean-Philippe?
Ben écoute, c'est selon les territoires, hein, tu sais, je veux dire, chaque recruteur chez nous a un territoire, tu sais, pour ma part, ben tu sais, évidemment, j'ai la GMQ, mais depuis quelques années, je vais beaucoup, sinon autant qu'en Ontario, donc la OHL, je fais un petit peu de tournoi à travers la saison, donc quand après ça, on va se rasseoir avec nos collègues, là, pour nous, ça va être quelque part au mois de mai, là, on va aller faire nos meetings en Nashville pour un petit peu finaliser notre liste, ben oui, on va comparer, mais en même temps, le recruteur-chef, lui, a vraiment la liste globale. Tu sais, il a vraiment la vision. Tu sais, je suis allé dans l'Ouest pendant 10 jours, mais tu sais, j'ai peut-être pas autant de détails sur les gars qu'on repêchait en 3-4e ronde de l'Ouest.
Par contre, est-ce que c'est ton patron qui veut que vous changiez de territoire de temps en temps pour avoir un autre regard sur le même talent puis que vous en jasiez ensemble en connaissance de cause?
Ben, encore là, je te dirais pas nécessairement. Tu sais, c'est des missions... peut-être des fois, tu sais, ton patron, puis encore là, ça va varier d'une organisation à l'autre. Tu sais, j'ai des collègues au Québec qui restent vraiment au Québec. Je parle de collègues, là, je parle de dépisteurs de d'autres organisations. Là. Mais tu sais, des fois, tu as des missions, ton head scout, là, recruteur chef, tu te dirais, hey, JP, j'aimerais ça que tu ailles peut-être dans l'Ouest une semaine pour cibler tel joueur. Puis après ça, moi, ça me permet, ben, quand je reviens me rassurer, d'avoir une meilleure idée dans nos meetings, les comparer aux joueurs du Québec, aux gars de la OHL, peut-être avec les Suédois. Fait que tu sais, j'ai une meilleure idée, donc ça te permet évidemment assurément de participer un peu plus aux discussions, là, on s'entend, là, parce que tu as vu une grande majorité des joueurs qui seront disponibles. Ça, je te dirais, Mario, au début, quand j'ai commencé, j'avais strictement la GMQ, puis à un moment donné, ben tu arrives au fait d'être collé sur tes joueurs, fait autant positivement que négativement, tu peux des fois peut-être trop aimer un joueur, puis des fois être trop difficile envers lui, Mais quand tu vois les autres ailleurs dans d'autres ligues, ben finalement ton joueur au Québec ou peu importe, tu réalises quoi, il est peut-être pas super. Tu sais, finalement, écoute, le joueur que mon collègue de l'Ouest me parle, il est bon, mais finalement je l'ai vu, mais il est peut-être pas tant meilleur entre guillemets là, que lui que j'aime au Québec. Donc ça donne un regard super intéressant.
Qu'est-ce que tu penses du talent qui sera disponible au prochain repêchage sur le territoire de la LHJMQ, ton principal territoire?
Ben, je vais t'avouer sincèrement que c'est une année qui va être très difficile. On se fait pas de cachette, là. Je pense qu'à la quelques semaines avant le repêchage, c'est sûr que le discours va revenir. Là. C'est pas une cuvée où est-ce que il y a beaucoup de profondeur. Puis tu sais, ça, c'est souvent le cercle vicieux, hein. T'as pas beaucoup de joueurs en termes dans le guillemets élite. Ben, ça crée que ton recruteur chef va peut-être moins venir. Donc, s'il vient moins, ben, il y a peut-être des joueurs qui seraient repêchés plus tard que peut-être que lui voit pas. Donc, tu sais, t'as peut-être plus de la misère des fois les pousser. Bon, tu sais. Mais, écoute, c'est pas une super année. Convaincu que déjà l'an prochain, parce qu'on a déjà un œil à savoir qui s'en vient, ça va déjà être mieux l'an prochain. Mais écoute, c'est des cycles, il n'y a pas nécessairement des raisons uniques, là. C'est comme ça, puis on vit avec.
Justin Poirier a fait beaucoup jaser cette année. On sait qu'à cause de son gabarit, il est vraiment sous le radar. C'est pas le premier à vivre ça, tu sais. Caulfield a chuté à mi-chemin en première ronde à cause de ça, principalement. Mais qu'est-ce qu'il y a pas que Caulfield avait? Caulfield a quand même été un choix de première ronde. Poirier, 51 buts à 17 ans. C'est, je sais que c'est pas dans NCAA, là, mais c'est du stock. D'après toi, on pourrait être surpris ou il va sortir tard à cause du gabarit? Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, écoute, qu'est-ce que j'en pense? Je sans trop avancer pour dévoiler nos secrets, mais tu sais.
On est juste nous autres, ça. Il n'y a pas de problème,
je
te
fais. Ouais, je le sais, Mario. On est comme autour d'une bière en parlant de repêchage, c'est bon. Mais tu sais, je veux dire. Ta question est bonne, puis je suis convaincu que les recruteurs comme moi, quand on est avec nos collègues, notre boss, nos headcounts, on a cet exemple-là un peu en tête de dire, tu sais, Caulfield a été repêché en première ronde, c'est un marqueur de but, pas un gros gabarit, entre guillemets, c'est un shooter, là, c'est un autre score de partout, puis j'analysais un peu récemment, justement, Justin Poirier, les buts qu'il avait fait, etc., puis tu sais, c'est un peu, c'est pas nécessairement d'un endroit, ça, c'est la preuve qu'il peut, tu sais, qu'il shoot le excuse-moi, là, mais il shoot le pot d'un peu partout, puis il est vraiment, écoute, il sort rapidement de sa palette. Donc, tu sais, le comparable peut se faire. Après ça, il y a des raisons. Est-ce qu'après ça, on essaie de projeter le joueur en termes de, bon, ben, son style? Est-ce qu'il va, il peut vraiment être un top 6? Après ça, sa vitesse? Après ça, comment il peut aller l'améliorer? Mais, tu sais, moi, juste en avancer, je suis convaincu que ce genre de joueur-là qui tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps pensé ce qui est le plus difficile à faire au hockey, c'est de marquer des buts. Tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui sont bons avec la rondelle, faire des passes, des transitions.
Il y a quelque chose de spécial, lui-là, là.
Ben, c'est ça, exact. Mon point, c'est de dire ça, c'est que quand t'as un talent unique qui est quand même marqué des buts, je suis convaincu qu'une organisation pourrait sauter sur le joueur plus rapidement, peut-être que la centrale peut l'avoir sur son, en termes de rang.
Tu serais peut-être plus à l'aise de parler d'un cas qui est derrière nous, c'est-à-dire qui est pas en avant, où je comprends qu'il y a quand même la protection du secret professionnel, mais Samuel Girard a été repêché par Nashville. Tu étais dans l'organisation, je ne me trompe pas, Jean-Philippe, quand il a été repêché. As-tu eu ton mot à dire? C'est un petit joueur, lui aussi, Samuel?
Oui, j'ai eu mon mot à dire. C'était mon deuxième repêchage à l'époque avec les Prédateurs, puis à troisième, en fait, repêchage. Puis, effectivement, puis Samuel jouait sur une gamme. Moi, j'habite à Trois-Rivières, donc, tu sais, je l'ai vu à 16 ans, je l'avais vu à 17 ans énormément. Samuel, tu sais, c'était des éléments qui faisaient qu'il était spécial. Ultra compétitif, ultra talentueux, instinct offensif, mais non, il était petit, tu sais, c'est pas un gros défenseur, mais il y avait beaucoup d'intention en termes de quand on dit défendre, tu sais, il défendait d'une manière vraiment agressive, son bâton était actif, il y avait une notion de caractère, puis quand les Cataractes s'étaient rendus en finale contre Rouyn-Noranda cette année-là, je me souviens de son le dernier match que moi j'ai eu la chance de le voir avant que la série se termine, puis que nous on avait nos meetings par la suite, c'est Samuel, il y avait quelque chose de simple, comme un but, trois passes, puis sa défenseur de 17 ans, mais il y avait vraiment. C'était à Shawinigan, je me souviens, je pense, c'est le match numéro 4. Il avait dominé le jeu, il était exceptionnel. Puis, mon recruteur-chef était avec moi lors de ce match-là. Fait que c'est certain qu'en sortant de l'aréna, on s'entend, là, on avait quelque chose de super positif en tête sur Sam. Mais ce sont tous des éléments, tu sais, caractère compétitif, instinct offensif, Puis c'est un gamer. T'sais, il veut la rondelle quand ça compte. Fait que je pense que c'est un genre de joueur qu'on aimait, puis que à un moment donné, le talent, c'est le talent. Le talent n'a pas nécessairement de grandeur ou de poids rendu là.
As-tu assez vu jouer Lane Hutson pour faire une comparaison? J'ai parlé avec des dirigeants de la Ligue qui me disaient qu'il était en avance sur Samuel au même âge. Pourrais-tu me dire si tu es d'accord avec ça ou tu l'as pas assez vu?
Ben, tu sais, j'ai pas. Lane Hutson, à son année de repêchage, je l'ai vu à deux tournois. Donc, tu sais, c'est difficile. C'est comparable de rien difficile parce que, tu sais, Samuel, lui, il est allé à Nashville, il a joué un petit peu, il a été changé au Colorado. Donc, tu sais, quand il arrive au Colorado, il y a une organisation déjà solide. Tu sais, Carl McCarr s'est joint, McKinnon, tu sais, on s'entend, là, t'es entouré de joueurs qui font que peut-être que ton adaptation sera encore mieux. Le comparable, pour moi, il est difficile à faire, mais. Une chose qui est sûre, qui est un point quand que, peu importe le jeune, peu importe l'organisation où ce que le jeune joue, tu sais, pour moi, c'est souvent la constance qui fait que un joueur peut se différencier en termes de être capable éventuellement de bien compétitionner, évoluer dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, dans le sens que, surtout ce genre de joueurs-là, tu sais, des défenseurs, parce que physiquement, ils sont peut-être moins gros, moins grands. C'est d'être capable de soir après soir. C'est un long calendrier, les voyages, tu sais, c'est l'élément de constance devient pour moi la clé. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le jeune a du succès, puis qu'il s'adapte, ou à un moment donné, c'est peut-être plus difficile, puis il y a des up and down.
Ben, toujours le fun de te jaser, Jean-Philippe. Bon voyage en Finlande, puis on plaisir de s'en prendre bientôt, peut-être à ton retour.
Ben, sans faute, on va regarder
les preuves
à soir,
ben,
pour le
site. Ben oui, bonne chance à tes
preuves. Hey, merci. Bye bye. Bien gentil, Mario.
Merci. Salut. Beaucoup. À la prochaine.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est